un grand plaisir, un honneur pour moi de pouvoir annoncer ce matin la parole de Dieu, le conseil de Dieu. Et c'était la première fois que j'étais de passage ici dans cette église. Hein. Et effectivement, hier, on a eu un excellent moment. On a pris toute la journée pour voir ce que Dieu pouvait nous dire à travers la parole de Dieu. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jean-Marie Ribet. Donc je suis à Mulhouse depuis 8-9 ans maintenant, où je m'occupe dans cette église de la Porte Ouverte spécialement de ce qui est en relation avec une formation biblique, une école biblique, et puis tout ce qui est enseignement, prédication, études bibliques. Et puis le travail pastoral habituel qu'il y a dans toutes les églises. Je suis marié, j'ai 3 enfants, une seule femme, 5 petits-enfants. À mes temps perdus, j'ai quelquefois écrit des livres, donc il y en a quelques-uns, ils ne sont pas tous, mais j'en ai quelques-uns là-bas sur la petite table. Donc il y en a un dont on a parlé hier soir, « Vers la gloire par l'humilité ». Donc, comme le titre l'indique, ça parle de l'orgueil et de l'humilité. Donc, si quelqu'un pense avoir un problème avec l'orgueil, lisez-le. Ceux qui pensent ne pas avoir de problème avec ça, lisez-le 2 fois tout de suite. Les comportements chrétiens, ça c'est un livre qui essaie de répondre aux questions, toutes les questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'un chrétien a le droit, n'a pas le droit? Est-ce que je peux pas, j'ai le droit, j'ai pas le droit? Sur des questions comme les questions du le corps, les bijoux, l'alimentation, les animaux purs, impurs, est-ce qu'on peut manger de la viande halal, ou des choses comme le tabac, l'alcool, ou est-ce qu'on peut se faire tatouer? Tiens, Antoine, tu es tatoué, toi? Non, hein, t'es pas tatoué. Ou des questions sur la vie civique, est-ce qu'un chrétien a le droit de faire grève, d'être syndicaliste? Enfin, voilà, est-ce qu'on a le droit ou pas le droit? Alors, le livre prétend pas mettre une case une croix dans une case, bien, pas bien, oui, non, mais plutôt quels sont les arguments pour arriver à une vraie réponse. Et puis ça, le serpent vaincu, c'est un livre qui parle de Jésus, ce que Jésus a fait pour nous. Si on veut vraiment vivre une vie chrétienne forte, alors il faut que Christ soit fortement en nous. Et ce matin, je reprendrai un thème qui est dans ce livre. Hein. Voilà, donc si vous voulez vraiment aimer Jésus, eh bien, il faut bien le connaître. Et puis, ça, c'est des DVD, c'est des clips que je fais pour le net qui, normalement, dure à peu près chacun 2 minutes, puis ça s'appelle ta 2 minutes. Et donc, on part d'un petit thème, une observation, un thème d'actualité pour arriver à une question, un questionnement sur des valeurs, sur des valeurs morales ou sur Dieu. Alors, dans ces DVD, dans chacun de ces 2 DVD différents, il y a une petite dizaine d'épisodes de ta 2 minutes qui sont reliés par un fil conducteur. C'est quelque chose qu'on peut facilement, c'est fait pour faire de la pré-évangélisation. Vous pouvez facilement le donner à un copain, un camarade, je sais pas, un voisin, votre concierge. Et puis, vous dites, regarde ça, puis après on en discute. Hein. Voilà, donc on les a fait pour pouvoir qu'ils puissent être multipliés facilement. Donc, c'est pour ça qu'on les a fait au prix plancher. Ça vaut 2,50 € l'un. Si vous en voulez 10, on vous en donne encore un en plus. Voilà. Alors, d'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais, si ça marche, on a toujours un petit frisson parce qu'on ne sait jamais si ça va marcher ou pas. On va essayer d'en passer un. L'épisode, c'est le dernier de celui-ci. C'est un peu la conclusion du DVD. Hein? OK, voilà. Est-ce qu'on peut remettre au début, pardon? Si on peut c'est quand on a le début, c'est mieux. Voilà, très bien. Voilà, merci. Non, pardon, le début de cet épisode, ça c'est le début du DVD. Voilà, le début du dernier qui s'appelle Happy End. Tout arrive, tout arrive. D'accord. Il veut plus. Vous voyez, c'est toujours. C'est très, très, très. C'est une loi, hein, pratiquement, en informatique. Ça marche juste avant, quand on essaye. Avant, ça marche bien. Et au moment. Ah, voilà, on va y arriver. Voilà. Voilà, ça c'est la conclusion. C'est la conclusion, évidemment. Normalement, il faudrait passer le reste pour comprendre comment on arrive à la conclusion. Ça, c'est un petit résumé du plan de Dieu. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous passer celui-là ce matin, parce que c'est le thème qui m'intéresse ce matin. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous, et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir un vrai espoir, plus qu'un espoir, une vraie certitude qu'on a un chemin pour aller au ciel. À quoi servirait, demande Jésus, à quoi servirait de se fabriquer une vie, même une vie confortable, une vie avec l'abondance dans tous les domaines, même une vie réussie personnellement, émotionnellement, familialement, bref, tout réussi, si c'est pour, à la fin, passer l'éternité du mauvais côté. Alors, quel est le plan de Dieu? Alors, pour ça, je vais aujourd'hui vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires? Il était une fois. Je vais vous raconter l'histoire du salut. À l'origine, avant que Dieu ait créé l'homme et la femme, l'humanité, il avait créé des êtres célestes, des esprits, et parmi tous ces esprits, il y en avait un que la Bible nous décrit comme étant un ange de très haut rang, un chérubin. Ce sont les anges du plus haut rang, les plus glorieux. Et ce chérubin, qui était parfait en gloire, en beauté, etc., en sagesse, ça c'est un peu mystérieux, à un moment s'est complu en lui-même et il a voulu prendre la place de Dieu. Donc Dieu l'a instantanément jugé. Il a été précipité, il a été jeté sur la terre, il a été précipité et déchu de sa nature et de ses droits. La Bible parle de ça de façon très, euh, très soft, hein, très soft. Vous avez deux passages, deux chapitres dans des livres prophétiques, dans Ésaïe au chapitre 14 ou dans Ézéchiel 28. Hein, mais on a coutume de lire ces passages qui sont affectés à d'autres rois qui étaient des tyrans méchants. Et on a coutume de comprendre qu'à travers ça, Dieu nous parle de l'origine de celui qu'aujourd'hui on appelle Satan le diable. Alors, je veux passer rapidement sur ça. Parce que après ça, eh bien, Dieu a créé quelque chose de différent. Et sur la terre, pardon, sur la terre, Dieu crée un jardin magnifique. Et ce jardin nouveau avait la particularité d'être un jardin biologique, vivant. Le monde, l'Éden originel dans lequel se trouvait avant Lucifer, Satan, est seulement décrit comme un univers de pierres précieuses, c'est-à-dire minérales, certainement précieux, magnifique, tout ce que vous voudrez, mais pas vivant. Et voilà que Dieu crée un nouveau jardin d'Éden, mais ce jardin d'Éden est un jardin vivant. Il est biologique, avec des plantes, avec des animaux, et chaque espèce se reproduit. Donc c'est quelque chose qui est d'une nature, d'une identité, une nature, une dimension qui était totalement novatrice. Quelque chose de totalement inconnu des anges, inconnu de tous les esprits. Quelque chose d'entièrement nouveau. Et au milieu de ce jardin, Dieu a créé un homme et une femme. Et à cet homme et à cette femme, Dieu leur a donné une capacité extraordinaire, et cette capacité, c'est qu'il leur a dit « multipliez-vous ». Et ça, c'est le propre de la vie biologique, c'est le propre de la vie tout court. Parce que quand Dieu a créé les anges à l'origine, bon, on ne sait pas exactement combien il en a créé. Je ne sais pas si quelqu'un a une information sur le nombre, non? Non, parce que maintenant, sur le net, on trouve tout. Hein. Est-ce que quelqu'un sait combien Dieu a créé d'anges? Je ne sais pas. Non, j'en sais rien. Vous avez une idée? Des myriades. Ouais, c'est peu encore, hein, des myriades. Hein. Myriados en grec, c'est 10 000. Donc, maintenant, si on disait 10 myriades de myriades, tiens. Non, c'est pour dire un nombre, quoi. Donc, si Dieu a créé au départ 10 myriades d'anges, aujourd'hui, combien y en a-t-il? Eh bien, si Dieu en a créé à l'origine 10 myriades de myriades, il y en a aujourd'hui exactement 10 myriades de myriades. Il n'en manque pas un et il n'y en a pas un de plus. Pourquoi? Parce que les esprits ne se multiplient pas. Ok, vous me suivez? Quand Dieu a créé à l'origine un homme et une femme, aujourd'hui, combien y en a-t-il? Aujourd'hui, on est entre 6,5, 7 milliards, je pense, sur la Terre. Pourquoi? Parce que Dieu les a créés vivants et capables de se reproduire. Donc, la vie est supérieure, la vie biologique, la vie humaine, est d'une dimension supérieure à la vie des esprits. Les esprits n'ont ni chair ni os. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas un corps, ils ont un corps spirituel, mais ils n'ont pas de chair et d'os, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de se reproduire. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a regardé ce qu'il avait fait et il a dit que cela était très bon. Avant, c'était bon. Mais quant à l'homme et la femme, Dieu vit que c'était très bon. Comment dis-je? Fort bon. Je m'habitue, hein, je traduis au fur et à mesure. C'était fort bon. Alors, le diable, Satan, qui a été, lui, créé comme un esprit et qui, à cause de sa rébellion, a été jeté sur la terre, a constaté que Dieu avait créé maintenant quelque chose qui est d'une nature et d'une dimension supérieure à la sienne. Parce que cette nature de l'homme et de la femme est une dimension qui est créatrice. C'est alors que les anges sont incapables de créer quoi que ce soit. Mais l'homme et la femme, parce qu'ils ont un corps physique, sont dans une nature qui leur est supérieure parce qu'ils prolongent la capacité de création de Dieu. Quand les hommes disent, quand on dit facilement d'un couple, d'une maman par exemple, on dit qu'elle a donné la vie. Oui, c'est une commodité de langage, mais ce n'est pas tout à fait exact. Elle n'a pas donné la vie, elle a transmis la vie. Parce que nous n'avons pas la vie, nous avons reçu la vie et nous transmettons la vie. C'est-à-dire que l'homme, dans sa capacité physique d'être humain, charnel, biologique, existe dans une dimension qui est supérieure à la dimension des anges, parce qu'il crée la vie. Un homme et une femme ensemble créent son... Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous immortels, pas notre corps physique. Mais ce que nous sommes à l'intérieur, le vrai, la vraie personne que vous êtes, ce n'est pas celle qu'on voit. Ce n'est pas celle qui prend des rides et qui a des caries dentaires. La vraie personne, c'est celle qui est dedans. Et celle qui est dedans, celle-là est immortelle. Et quand un homme et une femme transmettent la vie à un nouvel être vivant, ce nouvel être vivant est de nouveau un esprit immortel, un esprit dans un corps. Mais c'est-à-dire que l'homme, dans sa dimension humaine charnelle, est d'une nature et d'une dimension qui est supérieure aux anges, parce que nous fabriquons la vie, parce que nous multiplions la vie, parce que nous sommes en image de Dieu. Les anges ne sont pas en image de Dieu. Ils sont des créatures, mais ils ne sont pas en image de Dieu. Ça va, vous me suivez? L'homme et la femme sont en image de Dieu parce qu'ils sont capables de faire ce que Dieu fait, ils sont capables de créer. Les esprits ne créent pas. Ok? Donc quand le diable, qui était jugé, voit maintenant que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé des êtres qui sont d'une nature supérieure à la sienne. Alors il était fou de rage, de jalousie, et son plan n'était que de les faire tomber dans le même jugement dans lequel il était tombé à cause de son orgueil. Voilà pourquoi la haine de Satan était directe, instantanée et radicale contre l'homme. Si vous voulez, nous avons facilement le sentiment que le fait d'exister dans un corps, nous avons plutôt l'impression que c'est une condition d'infériorité par rapport aux esprits. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à cause du péché, ce corps est affecté aussi de la mort et est affecté de différentes des limitations, des difficultés, des douleurs, des maladies, etc. Donc le fait d'exister dans un corps, ça nous semble être quelque chose qui nous diminue. Mais c'est le contraire. À l'origine, c'est une supériorité. Donc quand le diable a vu ce qui s'était passé, quand il a vu Adam et Ève dans le jardin, il était décidé à les faire tomber dans la même faute. C'est pourquoi il se présente. Et il s'est présenté, bien sûr, sous une apparence séduisante. On peut être étonné que Ève ait discuté facilement avec le serpent. Mais dans l'état d'innocence où elle était à ce moment-là, elle ne pouvait pas suspecter que ça avait, quelque chose d'anormal, que c'était louche, en quelque sorte. Donc elle a parlé naturellement avec, et comme je l'expliquais hier, je le redis juste très rapidement, ce que le diable a dit en lui disant « est-ce que Dieu a réellement dit ?» il posait pas une vraie question, il voulait surtout suggérer que Dieu n'avait pas le droit de dire. Il a dit « en réalité, Dieu ne veut pas que vous bénéficiez de la vraie dimension dans laquelle vous pourriez être. Si vous mangez seulement du fruit dont qui vous a défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si juste vous en mangez, alors vous deviendrez vous-même comme Dieu. » Et quand Adam et Ève ont mangé de ce fruit, alors ils ont vu que le fruit, le texte dit que ils ont vu que le fruit était beau, qui était bon à manger. Ça, c'est l'appétit qui correspond aux appétits physiques. Après, ils ont vu qu'il était beau, c'est-à-dire qu'il était attractif. Ça, ce sont les appétits de l'âme, les appétits des sens. Et puis après, ils ont vu qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence spirituelle. Ça, c'est la convoitise spirituelle. Ils étaient tentés dans les trois dimensions. Et en mangeant de ce fruit, Alors, ils sont devenus pécheurs dans toutes les dimensions de leur être. Ils avaient désobéi à Dieu et ils avaient acquis maintenant la connaissance qu'il existe le bien et qu'il existe le mal, mais ils avaient acquis cette connaissance hors de Dieu, hors de la volonté de Dieu. Donc maintenant, ils connaissaient le mal, mais ils n'avaient pas de capacité pour lui résister. Donc, ils étaient maintenant des esclaves du mal. Ils étaient maintenant des esclaves du péché. Voilà pourquoi tous les hommes, quels qu'ils soient, et excusez-moi, messieurs, dames, peut-être quelques-uns, pour quelques-uns d'entre vous, c'est peut-être une mauvaise nouvelle ce matin, mais vous êtes esclaves naturellement, en dehors de Christ, tant qu'on n'est pas en Christ, vous êtes esclaves du péché. Tous les hommes ne sont pas esclaves des mêmes péchés, parce qu'il y en a une telle panoplie, mais tous le sont d'une façon ou d'une autre. Donc, quand Adam et Ève se sont détournés de Dieu, ils ont refusé de croire ce que Dieu dit, ils ont voulu eux-mêmes se tourner vers eux-mêmes et devenir eux-mêmes Dieu, alors ils sont devenus des pécheurs et ils sont devenus esclaves de celui, le serpent, le diable, de celui qui les avait vaincus. Alors Dieu s'est présenté et Adam et Ève se sont immédiatement rendus compte de ce qu'ils avaient fait dans le sens où ils se sont découverts nus. C'est-à-dire que cette nudité physique qui en elle-même est quelque chose n'est pas quelque chose d'anormal, mais elle était maintenant représentative, elle était symbolique de leur nudité intérieure. Alors bêtement, comme des enfants, ils se sont cachés derrière un buisson. Et Dieu a dit, mais Dieu a appelé Adam, il a dit, Adam, où es-tu? Et Adam a dit, j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis tout nu. Dieu lui a dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Alors il a dit, voilà, on a mangé du fruit. Alors Dieu a prononcé un jugement sur l'homme et la femme. Il a dit, comme je vous avais dit, si vous en mangez, vous mourrez. C'est plus une conséquence qu'une condamnation. C'est une conséquence logique. Dieu est la vie. Si quelqu'un se détourne de la vie, il se tourne vers la mort. Quelle voix dit Dieu les a punis, les a jugés? Mais c'est même pas tellement que Dieu les a jugés, c'est que eux-mêmes se sont détournés de la vie. Dieu est la vie. Ils se sont détournés de la vie, ils se sont tournés vers la mort. Dieu leur avait dit, mais je vous avais prévenu, si vous en mangez, vous mourrez. Si vous détournez de moi qui suis la vie, vous optez, vous choisissez la mort. Ils sont devenus mortels. Avant ça, ils n'étaient pas faits pour être mortels. Même les scientifiques montrent aujourd'hui qu'il y a dans notre corps des systèmes de régulation pour remplacer tout ce qui s'abîme au fur et à mesure. En théorie, nous sommes immortels, en théorie. Parce que à l'origine, c'était le cas. Mais maintenant, c'est plus le cas parce que le ferment du péché, le grain de sable, est rentré dans la machine. Et maintenant, quoi que nous fassions, eh bien, notre corps dépérit. Alors le diable, Dieu a prononcé un jugement sur le diable. Il a dit, parce que tu as fait ça, toi-même, un jour, le fils d'un fils, d'un fils, d'un fils, d'un fils, d'un fils de ce couple, un jour viendra et t'écrasera la tête. La postérité de cette femme t'écrasera la tête. Dieu aurait pu supprimer le diable instantanément. Mais parce que le diable s'est attaqué à l'homme, c'est l'homme qui le vaincra. Alors, à partir de ce moment-là, le diable, le serpent, savait très bien que son sort est joué. Si vous voulez, il faut pas s'imaginer qu'il y aurait dans le ciel, qu'il y aurait eu quelque part une espèce de guerre entre Dieu et Satan. Ça, c'est, excusez-moi, mais c'est idiot. Dieu est Dieu. Dieu n'a jamais été mis en question. Dieu n'a jamais été mis en difficulté. Dieu n'a jamais été mis en ballottage. Dieu n'a jamais été sur son socle comme si son trône avait vacillé. Dieu n'a jamais eu besoin de se dire, oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je vais faire? Faut qu'on fasse quelque chose maintenant. Non, Dieu est Dieu. La rébellion de Satan n'est qu'une folie instantanément jugée, instantanément gérée directement. Et Dieu dit au serpent, parce que tu t'es attaqué à l'homme, alors c'est la postérité de ce couple, c'est la postérité de la femme qui un jour viendra t'écraser la tête. Et depuis ce, Genèse 3, qu'est-ce, depuis ce jour-là, le diable sait très bien, il sait très bien, il n'a jamais hésité à savoir qu'un jour c'est ce qui arriverait. Il n'y a aucune incertitude dans le ciel. Le diable a été jugé instantanément le jour où il s'est rebellé contre Dieu et instantanément, Dieu l'a jeté par terre, il a été jeté en bas et il sait très bien qu'on ne se rebelle pas contre Dieu. Il sait très bien que ce que Dieu lui dit dans Genèse 3:15, il sait très bien que c'est ce qui va arriver. Donc dans chaque génération des hommes qui arrivaient, au fur et à mesure, le diable sait maintenant qu'il doit attendre celui qui un jour viendra dans la postérité même humaine, qui viendra pour le vaincre et comme le texte le dit clairement, qui viendra pour lui écraser la tête. Et dans chaque génération, les hommes sont tour à tour tous devenus des pécheurs. Les propres enfants d'Adam et Ève sont devenus des pécheurs. Caïn a tué Abel. Abel qui était appelé le juste. Mais Abel le juste avait lui-même compris qu'il avait besoin d'offrir des sacrifices pour ses péchés. Abel avait très bien compris que même étant quelqu'un qui aimait Dieu de tout son cœur, il était quand même un pécheur. Comment quelqu'un qui est pécheur pourrait vaincre celui qui les tient en esclavage par le péché? Comment un pécheur peut vaincre le maître qui les a vaincus? C'est impossible. Donc dans chaque génération, Satan a veillé à ce que chaque homme, chaque femme, tour à tour, dans chaque génération, petit à petit, que tous deviennent des pécheurs. Et même quand vous lisez la Bible tout entière, vous pouvez commencer par Abel, mais dans chaque génération, même les meilleurs, les plus fervents, les plus amoureux de Dieu, les plus sanctifiés, les plus pleins d'amour pour leur prochain, tous étaient des pécheurs. Le grand David était un pécheur. Élie était un pécheur. Samson était un pécheur. Moïse a fait ses bêtises. Tous ont été des pécheurs. Et dans chaque génération, les siècles passent, les générations se succèdent, les millénaires, et on attend toujours celui qui va venir et qui va être le champion de Dieu pour écraser la tête du vieux serpent. Mais c'est impossible. Alors un jour, est arrivée dans le ciel une révolution. Il y a eu un jour dans le ciel une grande révolution. Une révolution parce que quelque chose a changé dans la personne même de Dieu. Dans la personne même de Dieu s'est passé quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis toute l'éternité. La personne même de Dieu a changé. Et ce changement, c'est que la parole de Dieu est sortie de Dieu. Elle est sortie de Dieu pour devenir la semence d'un homme. Dieu parle. Et la puissance est dans sa parole. Toute la Bible dit toujours que la puissance de Dieu est dans sa parole. Quand Dieu, vous rappelez ça, hein, Dieu dit et la lumière fut. Dieu n'a pas pensé que la lumière soit, mais Dieu a dit. Pourtant, au moment où Dieu l'a dit, il n'y avait personne pour l'écouter. Hein. Mais Dieu dit, c'est sa puissance qui agit. Donc la parole de Dieu est créatrice. Et un jour, la parole de Dieu est sortie de Dieu et elle est devenue chair. Ça peut nous paraître extraordinaire, et ça l'est, hein, de toute façon. On peut être incapable d'en faire un tableau en peinture. On peut être incapable d'en comprendre toutes les ramifications intellectuellement. Il n'empêche que c'est ce qui est arrivé. Alors la parole de Dieu est sortie de Dieu et elle est devenue une semence d'homme que Dieu a mis dans le sein d'une jeune femme, une jeune fille qui s'appelait Marie. L'ange Gabriel est venu trouver une jeune fille. Il lui a dit, Marie, une grâce extraordinaire t'a été faite de la part de Dieu. Tu seras enceinte et tu vas enfanter un fils qui sera appelé le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. C'était une jeune fille. Et même si à l'époque on ne connaissait pas la génétique comme aujourd'hui, on savait quand même qu'une jeune fille, toute seule, elle n'a pas un bébé quand même. Hein. Ça, c'était clair. Hein. Marie a dit, mais je fréquente pas d'homme. Et alors l'ange lui a dit, non, c'est pas comme ça. L'ombre de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu seras enceinte. Bon, elle a dit d'accord. Là, je me dis, Dieu avait vraiment choisi la seule jeune fille, sûrement de tout le peuple, qui était capable de croire un truc pareil. Hein? Non, il ne s'est pas trompé. Elle a dit, bon, d'accord, ok, Dieu fait comme il veut. Et Marie était enceinte. Hein? Et donc, cet enfant qui était en elle est proprement le Fils de Dieu. Parce qu'il est la semence incarnée de la parole de Dieu qui est sortie de Dieu, qui est devenue chair. Hein? Et maintenant, le diable sait que le vrai match est arrivé. Ces choses, aux yeux des hommes, étaient encore à l'époque, encore cachées. À part Marie, qui connaissait évidemment d'où venait cet enfant, Joseph, à qui l'ange aussi l'a révélé, et peut-être quelques personnes de leur parenté, je ne sais pas, à qui ils ont peut-être partagé ces choses. Difficile à partager quand même, hein? Parce que si un jour vous connaissez une jeune fille qui vient, qui est enceinte, qui vous dit c'est le Saint-Esprit, tout le monde dit ah oui, d'accord. À l'occasion, tu me le présentes, hein? Et donc, ce n'est pas facile à partager. Mais le diable savait très bien. Le diable savait très bien. Pourquoi? Parce que cette transformation de Dieu dans le ciel, c'est quelque chose, c'est une révolution. C'est une révolution cosmique. Dieu lui-même est changé. Le Fils éternel de Dieu qui était en Dieu sous la forme de sa parole est sorti de Dieu. Vous pensez que ça c'est quelque chose qui dans le ciel passe inaperçu comme ça? Le ciel tout entier sait que maintenant le vrai sort de l'humanité est en train de se gérer. Et c'est pourquoi quand Hérode, le roi Hérode qui régnait à ce moment-là, a entendu dire qu'il y a un bébé qui est né, qu'on appelle le Fils de Dieu. Hérode, lui, qui n'était pas du tout un type spirituel, mais un sanguinaire, un peu parano, et qui craignait tellement pour son trône, il a dit, oulala, ça y est encore un truc, les Juifs vont me sortir encore un truc pour me trouver un concurrent, il faut supprimer ça. Mais voyez, il a cherché à faire mourir tous les petits-enfants qui étaient nés dans le district de Bethléem, là où Marie avait accouché. Mais ça montre bien que dans le monde spirituel, les choses étaient très claires. Le diable sait très bien ce qui est en train d'arriver. Pour lui, ce n'est pas juste un enfant. Pour lui, ces choses sont très, très claires. Quand Hérode a demandé aux responsables, aux scribes, Juif, il a dit, mais où doit naître le Messie? Ils ont dit, mais le texte de la Bible est très clair. Il dit que c'est à Bethléem. Vous croyez que le diable n'avait pas ses antennes qui traînaient comme ça? Il sait très bien ce qui est en train d'arriver. La relation de qui est cet enfant, pour lui, était claire. Le diable sait que Genèse 3.15 est en train d'arriver. Il sait très bien que ce que Dieu a dit, un jour, la postérité de la femme, un jour viendra pour t'écraser la tête. Le diable sait que c'est ce que Dieu est en train de mettre en route. Alors il a cherché à faire mourir cet enfant. Mais Dieu l'a protégé, l'a gardé. Et pendant tout un temps, cet enfant, Jésus, a grandi. Il vivait à ce moment-là, ils se sont déplacés en Galilée, ils sont allés à Nazareth, si bien que tout le monde a appelé Jésus de Nazareth. Ce n'est pas qu'il était né à Nazareth, mais il y a vécu depuis qui sont revenus d'Égypte. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans son village, que personne ne se soit rendu compte que cet enfant était un enfant parfait, un enfant qui ne pèche jamais. Moi, il me semble que si j'avais un enfant parfait, il me semble que je m'en serais rendu compte, vous voyez. Je pense que ça m'aurait surpris. Hein? Mais les gens ont seulement compris qu'il était un garçon paisible, gentil, etc. Et Jésus ne faisait rien d'extraordinaire au sens de surnaturel. Pourquoi ne faisait-il rien de surnaturel? Mais parce qu'il est un homme. Il est venu comme étant un homme. Jésus ne s'est pas déguisé en homme, il est devenu un homme. Et un homme normal, c'est un homme naturel. Et un homme naturel, c'est pas un homme surnaturel. Un homme naturellement, une femme, un homme naturel, ne fait rien de miraculeux. Pour faire du miraculeux, il faut une puissance, une énergie extérieure. L'homme est naturel. Donc tant que Jésus était dans cette dimension naturelle, il n'a jamais fait aucun miracle. Il y a des légendes, mais ce sont des légendes inventées, c'est des fables. Jusqu'à 30 ans, Jésus n'a rien fait. Mais à 30 ans, quand est arrivé le moment où il devait rentrer vraiment dans le ministère de Dieu, alors la puissance surnaturelle est venue sur lui. Déjà à l'âge de 12 ans, Jésus avait compris qui était sa vraie identité. Parce qu'il a bien fallu qu'il y ait un moment où il le comprenne. L'enfant petit, le petit Jésus, il a dû apprendre à marcher. Il a dû apprendre à parler. Lui qui est la parole de Dieu. Lui qui est la parole de Dieu qui a créé le monde, il a dû apprendre à dire « ba 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 ta 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 bo 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 ». Il a dû apprendre à parler. Il a dû tout apprendre. Il a appris la parole de Dieu, il a lu les textes. Et c'est pour ça qu'il démarre à 30 ans, parce qu'à 30 ans, il a fini sa formation. À 30 ans, Jésus connaissait maintenant toute la parole de Dieu. C'est pour ça que quand il a été confronté au diable dans le désert, hein, Jésus n'avait pas sur lui les Bibles qui existent maintenant, puisqu'on n'avait que des rouleaux, des parchemins. Et Jésus ne se promenait pas dans le désert en poussant une brouette avec tous les rouleaux de la Torah. Jésus avait la parole de Dieu dans sa tête. Il la connaissait pleinement, il la connaissait par cœur. Et quand il avait 30 ans, à l'âge de 12 ans, un jour, il était dans le temple et ses parents étaient allés à Jérusalem. Et là, lui, il s'est pris au jeu de discuter dans le temple avec les grands prêtres. Alors, il a discuté avec eux, et comme il avait une nature spirituelle pure, puisqu'il n'y avait en lui aucun péché, il comprenait déjà, même à l'âge de 12 ans, il comprenait la parole de Dieu d'une façon extrêmement aiguë, limpide. Il avait une vision fine, une vision acérée de la parole de Dieu. Donc, il posait aux prêtres des questions qui les laissaient bouche bée. Ils ont dit, mais j'ai jamais vu un gamin qui réfléchit aussi bien, quoi. Le texte dit pas qu'il les enseignait, mais ils étaient stupéfaits de ces questions, parce qu'il allait 10 fois plus loin que tout ce qu'ils avaient réfléchi jusque-là. Et cette discussion a tellement duré que quand les parents sont arrivés au lieu, puisqu'ils mettaient 2-3 jours pour aller à Jérusalem, quand ils sont arrivés le soir à l'auberge, comme ils voyageaient, il y avait le tonton, la tantine, il y avait tout ça, donc chacun croyait que Jésus était avec l'autre. Personne ne s'est fait du souci pendant toute la journée. Mais quand le soir, on s'est tous réunis, tout le monde a dit, Marie a dit à la tantine Augustine, elle lui dit, Jésus est avec vous? Ah non, 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 il n'était pas. Ah bon? Alors elle est allée voir le cousin Alfred. Mais Jésus est avec vous? Non, non. Ils ont fait le tour et après, elle a pris un coup de speed, elle a pris un coup d'angoisse. Tous les deux, ils ont dit, mais où il est? C'est incroyable. Alors maintenant, vous avez tous une fois perdu des gamins dans une foire ou un machin, hein? Hein? On panique vite, hein? Au bout d'un quart d'heure, quand on ne sait plus où il est, jusqu'à ce que le micro dise « Le petit Gabriel attend sa maman à la caisse !» Mais là, c'était grave. Donc, ils sont retournés en vitesse jusqu'à Jérusalem. Ils l'ont cherché partout. Et le troisième jour, ils sont allés au temple. Est-ce que vous pensez qu'ils allaient au temple pour chercher Jésus? Non, ils n'auraient jamais pensé que Jésus était dans le temple. C'est le dernier endroit où on va chercher un gamin de 12 ans. Ils sont allés au temple, pas pour chercher Jésus, parce qu'ils ne savaient plus où le chercher. Donc au bout de 3 jours, ils ont dit, il n'y a rien à faire, on ne peut plus que demander à Dieu. Donc ils sont allés au temple pour prier, pour chercher. Ils sont rentrés dans le temple, ils ont dit, on va demander à Dieu. Ils arrivent, le gamin était là. Mais ça... Ah! Ils étaient à la fois soulagés, mais quand même. Hey, moi, je pense qu'ils étaient. Joseph, hein, il devait être un peu énervé. Hein, hein, hein. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas qu'on te cherche? Tu te rends compte l'angoisse que tu nous as fait là? 3 jours? Oh, mais on est liquéfiés, nous. Mais Jésus a dit, mais est-ce que vous n'avez pas compris que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et pour eux, cette phrase était un peu mystérieuse. Mais ça montre qu'à cet âge-là, Jésus avait, toc, il avait fait la connexion. Il savait qui il était. Il savait qu'il était le Fils de Dieu descendu du ciel. Et que son père, ce n'était pas son père adoptif, Joseph. Il savait que son papa, c'est son papa qui est dans le ciel. Il savait qu'il était descendu du ciel pour faire l'œuvre de son père. Alors après, il leur était soumis et son enfance a continué. Sans doute Joseph est décédé, on ne sait pas quand, mais en tout cas quand Jésus arrive à l'âge adulte, Joseph a disparu, on n'en parle plus. Donc Marie était très certainement veuve, en tout cas quand Jésus est arrivé à l'âge où l'histoire reprend, quand il avait 30 ans, mais on ne sait pas trop quand Joseph est décédé. Et quand Jésus avait 30 ans, alors son cousin Jean-Baptiste, lui, avait commencé un ministère de prophète. Il préparait le peuple. Jean-Baptiste leur disait, écoutez, soyons bien clairs, hein, soyons bien clairs. Moi, je ne suis pas le Messie, hein, mais je suis la voix de celui qui prépare son chemin. Il est juste derrière moi, il arrive. Moi, je ne suis pas le Messie, mais il arrive. Et Jésus est arrivé. Alors, Jésus est allé vers Jean-Baptiste qui baptisait les gens, pas du baptême chrétien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, évidemment, la croix n'était pas réalisée. Mais Jean-Baptiste les baptisait en signe de repentance, comme de se laver, c'est le symbole qu'on veut se purifier, quoi. Alors Jésus a été se faire baptiser par Jean-Baptiste. Au début, Jean-Baptiste ne voulait pas, parce qu'il connaissait l'origine spirituelle de Jésus. Il savait comment Jésus était né, ça. Ils étaient cousins tous les deux. Donc l'histoire, lui était connue. Il a dit, mais non, tu es plus grand que moi. Jésus a dit, laisse faire, il faut qu'on fasse ce que Dieu a dit. Et quand Jésus est sorti de l'eau, alors le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur lui comme sous la forme d'une colombe. Et Dieu avait dit à Jean-Baptiste, quand tu verras celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre comme une colombe, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui baptise de feu. C'est lui qui est l'agneau de Dieu. Après ça, Jean-Baptiste a dit à tout le monde, quand Jésus passait, il disait, voilà, c'est lui. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comme symbole dans le peuple juif, l'agneau, c'est l'agneau qu'on sacrifie en particulier le jour de la Pâque. C'est-à-dire, c'est celui par le sang duquel nos péchés sont enlevés. Jean-Baptiste avait intuitivement, prophétiquement, il avait compris ces choses. Et il présentait Jésus en disant, voilà, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors Jésus a commencé, maintenant il était rempli, il a été dans le désert. Et dans le désert, il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, ce n'est pas le diable qui a pris l'initiative, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a emmené Jésus dans le désert pour qu'il rencontre le diable. Et là, dans le désert, Jésus a revécu les tentations que Adam et Ève ont vécues dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, ils ont vu que le fruit était bon à manger, la tentation charnelle, physique. Ils ont vu que le fruit était beau à voir, il était attractif pour les sens, la convoitise de l'âme. Et ils avaient vu que le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence et la tentation de l'esprit. Et Jésus, dans le désert, a été confronté à toutes les tentations. Le diable n'a pas cherché à jouer au plus fin avec lui. Tous les deux savaient très bien qui ils étaient. Le diable savait bien que c'est lui, le Fils de Dieu, descendu du ciel. Et Jésus savait bien que lui, c'est Satan. Le diable n'a pas joué, il n'a pas cherché à lui faire, à faire semblant. Il lui a dit, écoute, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Ok, bon. Tu es le Fils de Dieu. D'accord. Alors, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu et tu as faim. Bon, ben, c'est dingue, ça. Alors, ça, c'est extraordinaire. Alors, toi, tu es le Fils de Dieu et tu as faim. Mais ça n'a pas de sens. Tu es le Fils de Dieu. Tu prends un caillou, regarde. Tu prends un caillou, pouf, tu fais du pain. Ah, t'es le Fils de Dieu. Jésus n'a pas discuté avec le diable. Vous savez, on ne discute pas avec le diable. On le chasse. Ce n'est pas la même chose. Jésus aurait pu lui expliquer, « Ah non, mais attendez, ce verset ne s'applique pas. » Jésus n'a pas discuté. Il a dit, « Il est écrit. » Il est écrit. Et parce que Jésus connaissait la parole de Dieu et qu'elle était dans sa tête, alors il lui a cité des versets, tous des versets dans le Deutéronome, livre que nous, chrétiens, nous considérons souvent comme un livre un peu difficile, un peu ardu, un peu sec, un peu... En tout cas, pour Jésus, c'était une source de munitions. Hein. Jésus a dit dans le Deutéronome, il lui a dit, non, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, arrière de moi. La tentation physique avait échoué. Alors le diable lui a montré en un instant, il lui a fait un panorama, il avait déjà inventé la vidéo, il lui a montré en un instant un panorama de toutes les gloires, de tous les royaumes de la terre. Le diable lui a dit, voilà, moi j'ai reçu la gloire de tous ces royaumes et je la donne à qui je veux. Si seulement tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te la donne. Notez que le diable ne possède pas la direction des nations. Il ne possède pas la direction du monde. Ce qu'il gère, c'est la gloire. Ce qu'il gère, c'est la mondanité. La direction du monde, Dieu ne l'a jamais lâchée. Ce qui se passe dans un pays, dans une ville, même si nous avons le plus mauvais des présidents, c'est Dieu qui nous donne les présidents que nous méritons. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il a laissé la gloriole. La gloriole. Le diable a dit la gloriole. Les médailles. La une dans les journaux. Ça, c'est moi qui gère. Mais Jésus a résisté contre l'attrait des sens, contre l'attrait de la séduction de l'âme. Alors le diable l'a conduit au sommet du temple. Hein. Il lui a dit, écoute. Et à chaque fois, le diable citait la Bible. Hein, parce qu'il la connaît. Il la connaît, il l'a apprise par cœur aussi. Hein. Il a monté sur le sommet du temple et il a dit à Jésus, « Jette-toi en bas, car il est écrit dans la Bible, dans ta Bible, c'est écrit. Hein, et les anges, Dieu enverra ses anges pour le soutenir de ses mains, afin que son pied ne heurte contre une pierre. Si tu te jettes en bas, quand tu vas te jeter, les anges vont venir, hop, ils vont te prendre et puis te déposer. » Comme ça, tout doucement, tu te feras aucun mal. Pourquoi est-ce que c'était une tentation spirituelle? Parce que ce que le diable suggérait à Jésus, il lui dit, cesse de rester dans cette configuration humaine misérable. Deviens, impose-toi comme le Fils de Dieu. Impose-toi comme le Messie. Fais des prodiges. Oblige tout le monde à te reconnaître. Oblige tout le monde à t'adorer. C'est-à-dire, sors de ce chemin de souffrance. Sors de ce chemin où tu es venu pour te sacrifier. Impose-toi. Ça ne gênait pas le diable. Mais Jésus a dit, arrière de moi, et il l'a refusé. Donc Jésus l'a vaincu sur tous les terrains. Sur le terrain des tentations physiques, sur le terrain des tentations de l'âme, sur le terrain des tentations de l'esprit. Là où Adam et Ève ont entièrement chuté, Jésus a entièrement vaincu le diable. Et c'est pourquoi le diable s'est retiré parce qu'il avait épuisé, tout ce qu'il pouvait faire. Mais le texte dit bien qu'il s'est retiré, virgule, jusqu'à un moment favorable. Et à partir de ce moment-là, il faut comprendre que ces 3 ans du ministère de Jésus sont un temps extrêmement conflictuel. Il n'y a jamais eu un jour, un moment où Jésus se serait levé en se disant « Bon, bah tiens, aujourd'hui, on va se faire une journée cool. » Il n'y a pas de journée cool. Parce que à partir de ce temps-là, chaque journée est une confrontation à mort. Le diable sait très bien que la fin de tout ça, c'est Genèse 3.15. Le diable sait très bien que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est la parole de Dieu faite chair, qu'il est descendu du ciel, qu'il est le Messie et qu'il est venu pour lui écraser la tête, à moins qu'il arrive à lui faire commettre un péché. Si Jésus commet un péché, il devient un pécheur. S'il devient un pécheur, il ne peut plus sauver ni lui ni aucun pécheur. Donc le match de chaque jour pour le diable, c'est d'arriver à faire à Jésus un péché. Donc tous les jours, il est là. Tous les jours, il est à côté. Tous les jours, avec les principaux, les démons les plus puissants, les plus retors, les plus séduisants, les plus tout ce que vous voulez. Tous les jours, ils sont là. Et tous les jours, ils sont là pour le tenter. Tous les jours, ils sont là. La Bible dit, Hébreux 4, quelque chose, dit, il a été tenté en toutes choses. Nous, on se rend pas compte ce que ça veut dire, parce que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, permet que nos tentations sont mesurées. Dieu sait qu'il mesure les tentations auxquelles nous faisons face. Parce que sinon, on serait écrasé. Sinon, on serait laminé. On aurait été écrabouillé. Mais Jésus a connu toutes les tentations dans tous les domaines à leur paroxysme tous les jours. Le diable lui a envoyé toutes les tentations possibles. Jésus a été tenté par le fric. On lui amenait de l'argent. Vous croyez pas que quand il ressuscitait un mort, vous croyez pas que la famille avait envie de lui faire profiter? Le diable disait, profite, c'est à toi. Tu l'as bien gagné quand même. Le diable lui a envoyé les femmes les plus belles, les plus séduisantes, les plus jolies, les plus sexy. Des muettes peut-être. Non, ça c'est une blague. Il lui a... Il y en a qui n'étaient pas contents. Non, c'est une blague, c'est pas une gentille. Alors, mais le diable lui a envoyé, l'a mis dans toutes les situations les plus difficiles. Il a cherché à le déstabiliser par le découragement. Jésus trouvait quelquefois dans son équipe même des gens qui quelque part inconsciemment devenaient des alliés du malin. Un jour, le diable a réussi à se faufiler ses paroles dans la bouche de son principal ami, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre lui-même s'opposait au plan de Dieu. Jésus leur a dit, il faut que je meure sur la croix. Pierre a tiré Jésus à part pour lui expliquer. Vous voyez, il fallait lui expliquer. Alors il a tiré à part pour lui expliquer. Il dit, mais non, c'est pas comme ça, il faut pas que ça soit comme ça. Jésus s'est détourné, il lui a dit, arrière de moi, Satan. Jésus était obligé d'être attentif à chaque instant. À chaque instant, tout le temps, l'ombre du diable était là derrière, toujours, 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 toujours. Et pendant toutes ces 3 années, nous, on a souvent l'impression que ce sont des années un peu triomphales, style campagne électorale américaine, vous voyez, les limousines, les confettis et les foules. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ce sont 3 années d'une lutte à mort, jour après jour, instant après instant, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et comprenez bien une chose, comprenez bien, que Jésus n'est pas arrivé à la croix parce que le diable l'a amené à la croix. Le diable ne connaît pas le plan de Dieu et c'est pas lui qui vient pour faire le plan de Dieu. Jésus est allé à la croix parce qu'il est descendu du ciel pour aller à la croix. Il est allé à la croix parce que Dieu l'a amené à la croix. Il est mort sur la croix parce que Dieu l'a amené sur la croix. Et il est mort sur la croix à l'instant où il a voulu mourir. Le diable n'est pour rien dans tout ça. Il est seulement un agent. Il est seulement un agent méchant. Il réagit seulement sa nature de haine. Mais il ne décide rien. Le diable n'est pas sage. Il est seulement rusé. Rusé, ça veut dire malin et méchant à la fois. Mais il n'est pas sage. S'il était sage, il ne ferait rien parce que tout ce qu'il fait se retourne contre lui. Mais quand le temps de la croix est arrivé, c'est Dieu qui a décidé du temps. D'ailleurs, Jésus est mort exactement pendant la fête de Pâques, pendant qu'on sacrifie l'agneau de la Pâque, dont le sang nous donne la purification de nos péchés. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Il est mort pour ça. Au temps fixé, quand c'était le jour même, alors Dieu a permis qu'il y ait dans le groupe des apôtres même ce Judas qui a été l'instrument qui a aidé les sacrificateurs à amener Jésus dans ce fameux procès. Mais comprenez bien que ce qui s'est réalisé, c'est seulement ce que Dieu a décidé. C'est pas Hérode qui a fait mourir Jésus, c'est pas Pilate qui a fait mourir Jésus, c'est pas les soldats romains qui ont fait mourir Jésus, ce sont pas les sacrificateurs juifs jaloux qui ont fait mourir Jésus, c'est pas la foule insensée qui a fait mourir Jésus, c'est Dieu qui a amené Jésus sur la croix pour qu'il meure. Parce qu'il est le rachat de nos péchés. C'est le plan de Dieu, c'est le plan initial de Dieu. C'est pas un plan de rattrapage, c'est pas une roue de secours. Ce n'est pas le plan bis, c'est le plan de Dieu, c'est le plan que Dieu a mis c'est le plan que Dieu a prévu de toute éternité. Je pourrais vous démontrer ça dans la Bible. Au moins une dizaine de versets qui disent que le plan de Dieu, c'est le plan de la croix. Dieu savait évidemment à l'avance que Adam et Ève pécheraient parce que son plan, c'était pas de faire de nous seulement des créatures créées, c'est de faire de nous des gens rachetés par la vie de son Fils. Ça, c'est le plan éternel de Dieu. Christ est l'agneau de Dieu prédestiné avant tous les siècles. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé de toute éternité. C'est le vrai plan de Dieu. Dieu ne fait pas des choses en réagissant. Il y a des gens qui diminuent Dieu, comme si Dieu avait été obligé de sortir de son sac un plan de secours. Adam et Ève ont péché. Oh mince, qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas y toucher? Si, ils ont touché. Oh mince, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, mais je crois qu'il y a des chrétiens qui voient l'histoire comme ça. Alors Dieu se consulte avec son fils, mais son fils dit, ben je vais y aller. Hey! Dieu ne réagit pas. Dieu dirige. Dieu n'a jamais été mis dans l'obligation de dire, ils ont fait ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a tout fixé de toute éternité. Jamais Dieu n'est pris au dépourvu. Dieu dirige. Dieu est Dieu. Quand Dieu a amené Jésus sur la croix, alors là, toutes les tentations se sont multipliées. Toutes les tentations se sont exacerbées parce que Jésus souffrait dans son corps physique. Les conditions de la crucifixion romaine, c'est quelque chose d'horrible. C'est presque le pire de ce qu'on peut imaginer. Les clous, le clou traverse ici la base du poignet, traverse le gros nerf médian. Ça fait partie des souffrances les plus horribles qu'on puisse imaginer. Jésus souffrait dans tout son corps. Il a été flagellé. Le fouet a lacéré son dos. Il était déchiré. Les soldats, les Romains l'ont frappé. Il était fracassé. Il souffrait. Il souffrait dans son âme. Sa maman était là, à 3 mètres, en dessous de lui, au pied de la croix. Sa maman, que Jésus aimait de tout son cœur, même si des traditions religieuses ont fabriqué avec Marie des tas de hérésies, mais ça n'empêche pas que jamais une maman n'a été autant aimée de son fils que Marie n'a été aimée de Jésus. C'est l'amour filial pur, sans tache. Jésus pouvait... C'est une tentation extraordinaire, horrible. Pourquoi? Parce que Jésus, ce que les gens ne savaient pas, c'est que Jésus pouvait descendre de la croix. Est-ce que vous avez bien compris ça? À chaque instant, Jésus peut descendre de la croix. Il n'est pas sur la croix parce que il reste pas sur la croix parce que les clous le tiennent sur la croix. Jésus reste sur la croix parce qu'il est venu sur la terre pour mourir sur la croix. Donc à chaque instant, c'est lui qui décide s'il y reste. Ça va, vous comprenez ça? À chaque instant, c'est une tentation horrible parce qu'à chaque instant, Jésus peut descendre de la croix. Il a la puissance pour ça. Il peut descendre de la croix, guérir ses blessures, prendre sa maman dans ses bras, dire c'est bon, on arrête. C'est fini. Il n'a qu'à souffler sur les soldats, ils tombent tous par terre. Ils sont pulvérisés s'il veut. Mais à chaque instant, Jésus décide de rester sur la croix parce qu'il est venu pour mourir sur la croix. Donc c'est une tentation terrible, horrible, parce que quand on est dans des souffrances comme ça, des souffrances tellement incalculables, et qu'on peut y mettre un terme, et qu'on peut instantanément les arrêter, comment décider de continuer? C'est fantastique. Mais la plus grande, ça c'est la tentation physique, celle du corps, la tentation de l'âme, sous l'humiliation, les moqueries, la dévalorisation, les tentations contre l'âme, mais la tentation spirituelle. C'est là qu'était le pire. C'est qu'à un moment, Jésus a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que, pourquoi Jésus était sur la croix? Jésus était sur la croix pour que, quand il était sur la croix, Dieu a pris tous nos péchés, tous les péchés que nous avons commis, tous, c'est-à-dire des millions de péchés de tous les hommes, tous ces péchés ont été pris, ont été récapitulés et ont été mis sur Jésus, sur la croix. Mais pas seulement les péchés que nous avons commis, mais la puissance de notre nature de péché. notre nature de péché qui nous fait faire des péchés. Si bien que Paul dit que quand Jésus était sur la croix, il a été fait péché pour nous. Donc, au moment où Jésus était sur la croix, il est fait péché pour nous. Non pas qu'il soit devenu lui-même un pécheur, il restait innocent, mais il a été fait péché pour nous. Or Dieu, ne peut pas être en communion avec le péché. Dieu ne peut pas, Dieu est saint. Dieu est saint, Dieu ne peut pas être en communion avec le péché. Si bien que quand Jésus était sur la croix et qu'il a été fait péché pour nous, la communion entre lui et son Père s'est arrêtée. Parce que Dieu ne pouvait plus, Dieu le Père, ne pouvait plus être en communion avec son Fils. Parce que maintenant, il était le péché du monde. Et c'est pourquoi Jésus dit fort justement, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au début où je lisais ces textes, la première fois, ça m'avait perturbé. Parce que je me disais, mais si sur la croix, si Jésus dit ça, et s'il a eu des doutes, un doute c'est un péché. Si Jésus a eu des doutes, s'il a commis un péché, un seul péché de doute, à ce moment-là il devient un pécheur. Et donc ça me perturbait. Jusqu'à ce que j'ai compris que quand Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as Dieu abandonné ?» c'est pas un doute, c'est la vérité. C'était réel. Il était coupé de Dieu. Coupé de Dieu pour que nous ne soyons plus coupés de Dieu. Coupé de Dieu pour que notre péché soit expié, pour que notre nature de péché soit condamnée et que nous puissions, dans la résurrection de Jésus, pour que nous puissions revivre. C'est pourquoi pendant ces quelques heures, c'était horrible pour Jésus, parce que lui qui avait pu dire « Le Père et moi, nous sommes un », lui qui pouvait dire « Père céleste, je sais que tu m'exauces toujours », maintenant il était coupé de Dieu, il savait que ses prières n'allaient pas plus haut que le bout de la croix. Il était séparé de Dieu. Et Jésus pouvait arrêter tout ça à l'instant même. Le diable savait très bien ce qui était en train d'arriver. Quelquefois, je suis déçu quand j'entends expliquer que c'est seulement à la résurrection que le diable a été vaincu. Non, le diable a été vaincu là, quand Jésus était sur la croix. Parce que le diable savait très bien que ce Jésus qui est mort sur la croix, il sait très bien que c'est pas lui qui l'a amené sur la croix. Il sait très bien que c'est Dieu qui l'a amené là. Il sait très bien que ce Jésus qui meurt sur la croix n'a jamais commis aucun péché. Le diable le sait. Ça fait des années qu'il travaille pour ça, qu'il n'a jamais réussi. Il sait très bien que Jésus qui meurt sur la croix est saint, qu'il est le saint de Dieu, le fils de Dieu. Il sait très bien que s'il veut, il descend. Et le diable était angoissé. Il était angoissé avec tous ses acolytes, il était angoissé. Et eux, ils auraient voulu que Jésus descende de la croix, qu'il arrête ça. Le diable avait très peur. Il sait que si les choses vont au bout, il va lui écraser la tête. Le diable le sait. Et c'est pourquoi il mettait dans la bouche de tous ceux qui étaient là, autour, il leur mettait dans leur bouche des paroles de moquerie, de provocation, pour que les gens lui disent « Descends, descends, si t'es le fils de Dieu, descends de la croix !» Mais c'est le diable qui dit ça tellement il a peur. Il sait qu'il est vaincu. Il sait que Jésus n'a jamais commis aucun péché et qu'il est venu pour l'écraser la tête. Et quand on arrive au moment, à l'instant où Jésus a su que tout était fini, il a dit « Tout est accompli !» C'est-à-dire, tout est accompli, c'est-à-dire que l'expiation de tous les péchés est faite, la punition de tout la nature de péché de tous, tout est accompli. Alors Jésus a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. C'est-à-dire, comprenez bien, c'est-à-dire que Jésus décide de l'instant où il meurt. Jésus avait dit dans Jean 10, ma vie, personne ne la prend. C'est moi qui la donne. Alors quand on regarde la croix, on peut des fois avoir des doutes. On se dit, mais... pourquoi Jésus a dit « Ma vie, c'est moi qui la donne » C'est quand même quand ils l'ont crucifié qu'ils lui ont pris sa vie. Non, non, non. Non, non. Savez-vous pourquoi Jésus est mort ? Jésus est mort parce qu'il a décidé de mourir. Pourquoi allons-nous tous mourir un jour ? Mais parce que nous sommes des pécheurs. Parce que la mort, c'est le salaire du péché. Mais Jésus n'aurait jamais dû mourir parce qu'il n'a jamais été un pécheur. C'est pourquoi dans Jean 10, il a annoncé à l'avance prophétiquement. Il a dit « Moi, j'ai reçu de Dieu un pouvoir spécial ». J'ai reçu de Dieu le pouvoir de donner ma vie. Il fallait qu'il reçoive ce pouvoir spécial, sinon il ne serait jamais mort. Parce qu'on meurt, parce qu'on est un pécheur. Donc quand Jésus a fini, Alors c'est lui sur la croix qui a décidé de mourir parce qu'il a reçu le pouvoir spécial, unique, de donner sa vie. Alors sur la croix, il a dit « Maintenant, je meurs et il meurt ». Vous connaissez quelqu'un qui peut dire « Je meurs et il meurt » ? Personne ne peut faire ça. Parce que personne n'a reçu ce pouvoir. Mais Jésus a reçu ce pouvoir. Il a dit « J'ai reçu ce pouvoir de donner ma vie ». Alors quand il a dit « Je meurs », alors il est mort. Et quand il est mort, il a... Quand il est mort, Jésus a vaincu le diable. Colossiens 2,15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle sur la croix quand il a triomphé. Quand il a triomphé. Jésus a écrasé sur la croix, il a écrasé la tête du vieux serpent. Les gens qui étaient là ne voyaient que sa défaite. Ils croyaient qu'il avait perdu. Les disciples même étaient désespérés, découragés. Ils sont partis, ils se sont enfuis, ils se sont cachés, ils pleuraient, ils étaient désespérés, ils étaient anéantis. Les opposants de Jésus croyaient triompher. Mais dans le monde spirituel, tout le monde a bien vu ce qui s'est passé, et dans le monde spirituel, tout le monde a bien vu qu'entre le bois de la croix et les pieds percés de Jésus, il y avait la tête du serpent écrasée. Le diable est vaincu. Il est vaincu. Paul explique ça en reprenant une image qui est une image technique qui fait partie de la vie de l'Empire romain. Dans l'Empire romain, quand un général remportait une victoire sur des ennemis, alors le Sénat, en tout cas au temps du Sénat, pas au temps de l'Empire, mais au temps du Sénat, pouvait décréter, on lui décrétait, c'était un décret comme une loi, on lui décrétait un droit de triomphe. Hein. C'est-à-dire que le général avait le droit de rentrer dans la ville sur un char d'honneur, avec une couronne d'or, et il paradait comme ça, il faisait un triomphe dans la ville sur son char, et derrière son char, on attachait avec des chaînes le général qu'il avait vaincu. Et il le promenait en spectacle publiquement en triomphant de lui. C'est ce que Paul dit dans Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant par la croix. Par la croix. Le diable sait qu'il est vaincu. Tous les démons savent qu'ils sont vaincus. Genèse 3,15 s'est accompli exactement au jour, à l'heure, à la seconde où Dieu l'avait prévu de toute éternité. La postérité de la femme lui a écrasé la tête. Un jour, j'étais en Afrique, à Bangui, et je devais prêcher dans une... J'avais prévu de prêcher ce message, ou enfin un message un peu équivalent, quelque chose comme ça. Et alors l'église était remplie, c'était une église, c'était plein. J'allais dire c'était noir de monde, bon, ouais. Et donc c'était tout plein. Et c'était tellement plein, il y avait des fenêtres, il y avait du monde autour, encore autant de gens dehors que dedans. Et il y avait plein de monde. Les chaises étaient jusque là au bord. Et puis on a amené un monsieur qu'on a assis tout devant au dernier moment, un monsieur qui avait perdu la tête, un fou. Et en Afrique, ils n'avaient pas tellement de médicaments, tout ça. Donc, comme ce monsieur était dangereux, il lui avait mis des espèces de menottes avec une chaîne aux mains, comme ça, très courte, et aux pieds, pareil. Donc, le monsieur se déplaçait avec ses petites chaînes et il pouvait faire que des petits pas, comme ça. Et des gens l'ont amené à la réunion. Comme il n'y avait plus de place nulle part, il restait une place tout devant, au deuxième rang. Donc, on a amené ce monsieur-là, comme ça, il était au deuxième rang. J'ai jamais vu quelqu'un dans le visage était plus mort, des yeux morts. On l'a posé là, mais j'avais vraiment l'impression qu'on posait un légume, une plante. Et il n'avait aucune réaction. On aurait dit un corps mort. Il ne bougeait pas, il ne faisait rien. Ses yeux n'exprimaient aucune attention, rien du tout. Il y a eu un temps de louange, tout ça. Et rien ne s'est passé. Et puis, c'était à moi de prêcher. Donc, j'ai dit... Et comme ça, j'ai commencé mon message comme ça, j'ai dit, écoutez, frères et sœurs, avant toute chose, je voudrais vous citer Colossiens 2,15. Quand j'ai dit, avant de lire le verset, la référence, juste la référence. Quand j'ai dit Colossiens 2:15, le type qui était là a sursauté. Ses yeux se sont ouverts, ses yeux étaient devenus comme des braises. Il est sauté debout, il était dans une rage, une fureur. Il était incapable de plus rien contrôler. Il était dans une telle violence, une telle haine. Avec ses petites chaînes qu'il avait comme ça, il a sauté sur la personne qui était devant lui. Il essayait de lui serrer le cou. Alors bien sûr, bon, tout le monde l'a saisi et sorti. Ah, j'ai dit, tiens, le diable connaît certaines références. Hein? Ah, le diable connaît certaines références. J'ai dit, tiens, le diable n'aime pas Colossiens 2:15. Hein? Alors j'aime bien lui redire de temps en temps. Quand il me fait des soucis, je lui dis Colossiens 2:15. Colossiens 2:15. Et le diable n'aime pas Colossiens 2:15, qui lui rappelle que depuis ce jour-là, le Fils de Dieu qui est descendu du ciel est venu et au temps fixé, comme Dieu l'avait dit, il lui a écrasé la tête. Malheureusement, quelquefois, j'ai presque le sentiment que les chrétiens le savent moins que lui. Quelquefois, je ne suis pas sûr qu'ils savent que l'histoire est finie. Je suis des fois étonné que certains chrétiens parlent encore du diable comme si quelque part il y avait encore une incertitude, comme si quelque part il avait encore un rôle à jouer. Comme si quelque part il fallait avoir peur de lui. Hey, mais qui est en vous? Christ est en nous. La parole de Dieu qui a créé le monde, la parole de Dieu qui est devenue chair, qui est devenue vie, la parole de Dieu qui nous a donné l'expiation des péchés, qui nous a donné une nouvelle nature et qui a écrasé la tête de notre adversaire, ce Jésus-Christ est en nous. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Le diable ne peut plus, il ne peut plus nous accuser, même dans le ciel, il ne peut plus nous accuser. Ça, c'était vrai dans l'histoire de Job. Mais maintenant, il ne peut plus, il n'a plus de place. L'archange Michel l'a précipité par terre. Il y a eu un combat dans le ciel et il ne fut plus trouvé de place pour lui. Vous croyez qu'avec ce que Jésus lui a fait, vous croyez que le diable peut continuer de se pavaner dans le ciel comme il faisait dans l'histoire de Job? Vous croyez ça? Mais c'est impossible! C'est impossible. Jésus est assis sur le trône de Dieu. Dieu lui a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tous tes ennemis ton marchepied. Et quant au diable, l'Apocalypse dit clairement, malheur à la terre, car il a été précipité, l'accusateur. Aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, c'est seulement parce que Dieu lui a donné un sursis qu'il existe encore. C'est le grand miracle de la bête dont la tête a été blessée d'un coup d'épée mortelle et qui pourtant vit encore. Voilà, ça c'est l'histoire du diable. Il est vaincu, il est écrasé. Dieu lui a donné un sursis parce qu'il joue encore un rôle. Mais quand il aura fini de jouer son rôle à la fin des temps, quand nous serons réunis avec Dieu pour l'éternité, alors l'archange Michel le prendra et le déposera dans l'étang de feu et de soufre, où il restera pour l'éternité et où on ne le verra plus. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu très bon, nous voulons vraiment te donner des actions de grâce. Toi seul, tu as accompli ce plan merveilleux, ce plan miraculeux, ce plan surnaturel qui nous a donné la vie, qui nous a changé, qui nous a donné un si grand salut. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus, d'avoir accepté de descendre du ciel. Nous te remercions d'avoir accepté de vivre de telles souffrances, de telles douleurs, pour que nous puissions être sauvés. Nous voyons combien tu nous as aimés pour faire cela. Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Nous ne voulons pas risquer de ne jamais oublier ces choses. Nous ne voulons pas les dévaloriser, nous ne voulons pas les perdre de vue, mais nous voulons vivre. Nous voulons vivre dans cet amour, dans cette grâce. Nous voulons vivre comme des enfants de Dieu, rachetés, sauvés, et qui aiment leur Dieu, qui aiment leur papa de tout leur cœur. Seigneur, je te prie pour que s'il y a quelqu'un encore ce matin qui n'a jamais vraiment dit à Jésus, « Jésus, je veux vraiment que tu sois mon sauveur. » Si quelqu'un n'a jamais, si vous n'avez jamais dit ça, si vous n'avez jamais dit « Jésus, je me donne à toi, rentre dans mon cœur », dites-le au Seigneur maintenant. Dites-lui.